Deutsche Welle Allemagne Magazine.
Est-ce que c'est explicable cette affaire?
Lauriane Tsemina.
Est-ce que c'est explicable?
Théologien rwandais, résistant Hutu au génocide.
Comment est-ce qu'on peut expliquer une horreur comme Auschwitz? On voit vraiment qu'on est descendu dans des profondeurs tout à fait insondables. Et tous ont fini par se laisser prendre. Même les meilleurs ont fini à peu près par accepter l'inacceptable. C'est ça que je ne comprends pas.
Et c'est ça que nous allons tenter de comprendre cette semaine dans cette deuxième émission consacrée au camp des Mille. Aujourd'hui, site mémorial, hier, durant la Seconde Guerre mondiale, camp d'internement et de déportation, situé à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. En deuxième partie, nous avons rendez-vous à Berlin avec des réfugiés qui ont monté une pièce de théâtre pour attirer l'attention sur leur sort. C'est Constance Unkötze au micro. Guten Tag, bonjour à tous.
Ah, mais il faut bien l'admettre.
Et t'es feignant comme un corse.
S'il y a trop d'Arabes, tout de suite, c'est la
ils sont pas rapides.
C'est vraiment un travail de portos.
Les Blancs, c'est tous des riches.
Voici des propos que l'on peut entendre tous les jours, partout dans le monde, au détour d'une conversation. Vous êtes à l'écoute d'Allemagne Magazine et nous poursuivons cette semaine notre visite au site mémorial du camp des Mille avec Dinesh Teluk, le responsable de la communication.
Troisième et dernière partie qu'on appelle le volet réflexif qui fait de ce projet un projet unique au monde puisque pour la première fois sur un lieu de mémoire, il y a le plus jamais ça de la Shoah, mais au-delà du plus jamais ça, comment faire pour que plus jamais ça?
Dans ce troisième volet, les concepteurs du site mémorial ont choisi de parler non seulement de la Shoah, mais aussi des crimes génocidaires contre les Arméniens dans l'Empire ottoman en 1915-1916, contre les Tziganes en Europe entre 1939 et 1945 et contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le but n'étant pas de comparer ou de mettre en concurrence ces différents drames, mais de décortiquer les mécanismes individuels et collectifs qui conduisent de la haine ordinaire aux crimes contre l'humanité, mais aussi de l'indifférence à la résistance. En s'appuyant sur divers travaux scientifiques, le musée a distingué trois grandes étapes qui, lorsqu'elles s'enchaînent, peuvent conduire au pire. Le diable né dans le quotidien, c'est le nom de la première étape, illustré notamment par des images de l'Allemagne dans les années 30, crise économique, fort taux de chômage, peur de l'avenir et Adolf Hitler qui se met sur la route du pouvoir.
Personne ne parle. Des dizaines de milliers de gens qui chaque année se suicident en ouvrant le gaz parce qu'ils vont très mal.
Le terreau des frustrations et des injustices sociales est d'autant plus fertile lorsqu'on y ajoute un peu de démagogie et qu'on lui trouve un bouc émissaire. Que ce soit dans le cas des Arméniens, des Juifs, des Tziganes ou des Tutsis, à chaque fois, une minorité extrémiste s'est efforcée de faire circuler des rumeurs et des accusations de complot. Au Rwanda, un prétendu plan de la colonisation Tutsi en Afrique centrale voit le jour en 1962.
Sachez qu'un Hutu est créé pour servir. Faisons des élus Hutus nos amis. Offrons-leur des cadeaux et de la bière afin de leur tirer les vers du nez. Offrons-leur nos filles. Les Hutus résisteront très difficilement à leur beauté angélique. Sachez que les Hutus sont gourmands. Distribuez-leur beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup d'argent.
Ce plan, attribué aux Tutsis, était un faux document, tout comme le protocole des sages de Sion, censé prouver l'existence d'un programme mis au point par les Juifs pour dominer le monde. Lui aussi fera des dégâts, car le mensonge permet de transformer la victime en agresseur et le chef en sauveur. Cela rassure ceux qui, au sein de la société, sont en quête de certitude. Cela n'inquiète pas outre mesure la majorité, qui reste donc passive, voire silencieuse. Et ce qui était encore hier inconcevable devient normal.
Nos adversaires trouvent que nous sommes, et moi en particulier, des êtres intolérants et odieux. Eh bien, ces messieurs ont raison, nous sommes intolérants. Je me suis fixé cet objectif. Supprimer tous les partis.
Objectif réalisé puisqu'Adolf Hitler est non seulement nommé légalement chancelier en janvier 1933, mais il parvient aussi à s'attribuer les pleins pouvoirs et ce, dès le mois de mars. En quelques semaines seulement, la démocratie est supprimée, les contre-pouvoirs éliminés, c'est la deuxième étape mise en lumière par le musée. On s'habitue à la violence dans les discours et dans la rue, les médias sont manipulés. Ce fut aussi le cas au Rwanda, avec les discours de haine diffusés par la RTLM, la radio des Mille Collines.
Que vous soyez enragés et que nous puissions combattre pour notre ville, pour notre pays, chers frères. Alors bon courage, restez à l'écoute de RTLM, il est midi 2 minutes.
Troisième étape enfin, mise en place d'un régime de terreur, déshumanisation de l'adversaire, extension des persécutions. Et au fur et à mesure que la liste des victimes s'allonge, celle des complices suit le même mouvement. Il y a bien sûr les chefs et les idéologues, mais également ceux qui exécutent les ordres, ceux qui dénoncent leurs voisins, ceux qui profitent du système pour faire des affaires, et ceux qui ferment les yeux.
Qu'aurais-je fait ? Que ferais-je demain si...
C'est aussi sur ces deux questions que le site mémorial du camp des Mille s'attarde, notamment avec le mur des Justes.
Odile Katarina Björn a sauvé la vie de nombreux Arméniens, pris des photos et recueilli des témoignages.
Sous la Karouimbi héberge et sauve de nombreux Tutsis.
Divers profils, mais des citoyens ordinaires, qui vont résister, qui vont refuser l'inacceptable.
Les frères Bielski, résistants juifs polonais, sauve 1200 juifs.
La résistance est possible. Au-delà des Justes parmi les nations, tous ceux qui ont accompli ces actes nous montrent qu'on est en capacité de le faire. Et finir la visite sur un mur pareil, c'est aussi notre d'espoir qui est donné aux visiteurs. Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière.
Le pasteur Henri Manin et le gardien Auguste Boyer ont hébergé plusieurs internés juifs après avoir facilité leur évasion du camp des Mille.
Visite au camp des Mille avec Dinesh Teluk, un reportage en deux parties à retrouver sur notre site internet dw.de/français. Vous trouverez également l'adresse du site internet du site mémorial. Nous vous avons déjà parlé dans ce magazine du camp de l'Oranienplatz. En octobre 2012, après une marche des réfugiés organisée dans toute l'Allemagne et dont le point d'arrivée était Berlin, une centaine d'entre eux ont décidé de s'installer sur une place de la capitale, l'Oranienplatz, dans des tentes de fortune. Aujourd'hui, sur l'Oranienplatz, il ne reste rien. Les tentes ont disparu et des barrières empêchent l'accès à l'ancien camp. Les réfugiés n'ont pas tous été relogés. Certains sont en grève de la faim depuis le jour de l'évacuation. Et d'autres expriment leurs revendications dans une pièce de théâtre, Grenzfälle. Notre correspondante à Berlin, Audrey Parmentier, a assisté à l'une des répétitions.
Tu parles français ?
Je parle français.
Je m'appelle Abba, je viens de Tchad. Je suis arrivé ici en Europe, ça fait presque un an et demi. Et je vivais à Oranienplatz. Oranienplatz, c'est un endroit que les réfugiés se regroupent pour manifester. Ouais, c'est là que j'ai trouvé Anna, elle m'a proposé de jouer la comédie avec elle, etc. Et j'ai accepté.
Anna, c'est Anna Katharina Schröder, la metteur en scène de Grenzfälle, une pièce qui a vu le jour lors d'une manifestation organisée dans le camp de l'Oranienplatz en décembre dernier.
C'était la première fois que je me rendais vraiment sur place et que je discutais avec les gens. Leur énergie m'a complètement contaminée. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose le plus vite possible. Je travaille dans le théâtre et j'ai pensé que c'était une bonne idée d'utiliser la scène pour favoriser les rencontres. Je ne voulais pas faire une pièce sur les réfugiés, mais avec eux, développer un processus commun.
Le résultat de ce dialogue, la pièce Grenzfälle, met en scène la rencontre de plusieurs mondes, celui des réfugiés, Jamal, Abba, Ona, Momo, Djedje d'un côté, celui de l'avocate Dr Griff et de la politicienne Dr Wortmann de l'autre, et entre les deux, celui de Marie et de Jack.
Jack est quelqu'un qui, comme tout étranger dans un pays, arrive et commence par le bas et petit à petit s'est enrichi et est devenu une grande personnalité, riche et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il n'est plus ce qu'il était avant d'arriver dans le pays d'adoption.
Ce pays d'adoption, c'est l'Allemagne. Celui qui joue Jack y vit depuis plus de 13 ans, sans papier ni permis de travail. Il a longuement habité dans le camp d'Oranienplatz et les répétitions de la pièce lui ont permis de sortir du quotidien.
Oui, le théâtre pour moi, c'est aussi un divertissement avant tout. La pièce parle des problèmes de Oranienplatz, ce à quoi les gens aspirent, à la liberté de circulation, à un permis de travail. Et la pièce parle de comment nous pouvons arriver à trouver une solution définitive au problème des réfugiés en Allemagne, en Europe, dans le monde.
Wir haben nicht umsonst gesetzt.
Si les revendications des réfugiés concernent tout le monde, la pièce montre qu'en Allemagne, les réactions sont diverses. L'avocat de Dr Griff trouve qu'ils sont trop nombreux et qu'il faut les renvoyer dans leur pays. La politicienne Dr Wortmann ne cesse de retourner sa veste. Quant à Marie, la femme de Jack, elle invite certes les réfugiés à partager un dîner, mais elle ne cesse de les prendre de haut en corrigeant leur allemand. C'est l'actrice Esther Zimmering qui joue ce rôle.
Comme beaucoup de gens, je suis passée de nombreuses fois devant le camp sans m'arrêter. Je me demandais ce que c'était, ces tentes, ce que ces Noirs faisaient ici. J'avoue que ce n'est pas très politiquement correct. Et puis j'ai appris qu'il y avait une réunion avec des réfugiés, des hommes politiques et des artistes. J'y suis allée et là je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose avec eux. Je me suis décidée à ne plus détourner le regard, mais à aller vers les autres, à dépasser mes propres peurs.
Dépasser sa peur de l'autre, c'est un des messages de Grenzfeller. Mais il y en a beaucoup d'autres, comme l'explique Anna Katharina Schröder.
La pièce en soi est un message, ce processus de créer quelque chose ensemble. Et en ce qui concerne le contenu, ce sont les revendications des personnages, ce qui est dit à la fin. Il y a sans cesse des promesses, mais concrètement, les choses avancent très lentement. On leur dit tout le temps, on va regarder et vérifier votre dossier, et il ne se passe rien.
La pièce se termine sur une phrase en anglais d'un des réfugiés, Ona, qui se demande combien de temps ils doivent encore attendre.
But how long do we have to wait?
La pièce Grenzfälle est soutenue par l'Organisation de défense des réfugiés pro-asule. Elle est à voir jusqu'au 7 mai à Berlin. Sur ce, bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss!